Le goût d'entreprendre. Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'Épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.
Bonjour à tous et bienvenue dans Le Goût d'entreprendre. Alors si on vous dit SCOP et SIC, vous nous répondez Société coopérative et participative et Société d'intérêt collectif. Pour accompagner ces entreprises dans leur développement, l'Union régionale des SCOP Midi-Pyrénées met à leur service outils et informations. Sa présidente est avec nous pour en parler, Muriel Descou. À ses côtés, l'exemple d'un entrepreneur solidaire, Rachid Zamani de Co-Savoir. Économie durable, c'est le leitmotiv de l'Union régionale des SCOP, association interprofessionnelle qui aide les SCOP et les SIC. Bonjour Muriel Descou.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans Le Goût d'entreprendre. Alors, qu'entend-on Muriel par économie durable ?
C'est une économie qui est au service d'une part des hommes, au service de ceux qui travaillent dans les entreprises et qui est destinée à se pérenniser de génération en génération.
Alors c'est différent d'une entreprise, on va dire, classique.
Alors la grande différence, c'est que dans une SCOP notamment, les gens qui travaillent dans l'entreprise sont associés.
Ouais.
Donc l'entreprise appartient à ceux qui travaillent dedans. Et ensuite, on va avoir du coup des règles de fonctionnement qui sont différentes, qui vont permettre à chacun de pouvoir participer aux décisions, puisque les grandes décisions sont prises selon la règle « un homme, une voix ». Et ensuite, les deux autres principes sont importants. Le premier, c'est que les résultats de cette entreprise sont partagés entre ceux qui travaillent et l'entreprise elle-même. Et enfin, la partie qui est mise en réserve, donc qui reste dans l'entreprise, est impartageable, c'est-à-dire qu'une SCOP ne pourra jamais être revendue à un autre actionnaire. Elle continuera à appartenir à ceux qui travaillent dedans.
Mais une SCOP, c'est une entreprise qui doit aussi gagner de l'argent, Muriel.
Bien sûr, une SCOP, c'est une entreprise. Elle doit gagner de l'argent. Elle doit gagner de l'argent, d'une part, parce que c'est la condition même de la pérennité.
Ouais.
D'autre part, parce que c'est le moyen pour les salariés d'avoir un retour aussi sur leur travail. Et ensuite, c'est aussi le moyen de se constituer des réserves qui vont permettre de passer les périodes difficiles, qui vont permettre de se développer. Et donc, c'est grâce à ça que ces entreprises sont pérennisées.
Est-ce que la relation est différente entre les salariés d'une part et entre les dirigeants et les salariés d'autre part ?
Alors, la première grande différence, c'est que ce sont les salariés qui élisent leurs dirigeants. Donc effectivement, ça crée une relation particulière, celui qui dirige la SCOP est considéré par les salariés comme celui qui est le plus approprié, le plus compétent pour diriger l'entreprise. Donc de ce fait, c'est effectivement une grande différence. Ensuite, cette relation aux dirigeants, elle est évidemment très différente quand on est dans une SCOP où il y a 5, 6 personnes ou dans une SCOP où il y a 100 ou 200 salariés.
Oui, tout à fait. À vos côtés, bonjour à vous Rachid Zamani de l'entreprise Co-Savoir. Vous venez de nous rejoindre donc dans les studios de Radio Piazance pour Le Goût d'entreprendre. Rachid, donc présentez-nous rapidement votre entreprise en quelques mots. Vous êtes dirigeant d'une SCOP.
Oui, bonjour à tous. Je suis Rachid Zamani, je suis le gérant d'une SCOP.
Ouais.
Cette SCOP, elle s'appelle Co-Savoir. C'est un bureau d'études, conseils et formation qui est basé à Tournefeuille, ici.
On a, à côté de Toulouse.
À côté de Toulouse. On attaque notre septième exercice. À présent, on est une équipe de 7 personnes.
7 personnes, déjà, oui.
Dont 4 associés. Donc, par rapport à la question précédente, effectivement, il y a une forme d'engagement du gérant, mais une confiance que les salariés doivent aussi attribué à ce même gérant. Et nos activités, alors on a une particularité, c'est qu'on intervient, pour terminer sur la présentation, particulièrement sur la gestion des compétences des publics peu qualifiés. Donc notamment, on a une expertise forte sur le secteur du handicap.
Oui, d'accord. Est-ce que vous avez le sentiment, et on le disait il y a un instant avec Muriel, que vos collaborateurs sont davantage des collaborateurs que des salariés et sont très impliqués ?
Oui, d'ailleurs on emploie le terme de coopérateur. Plus régulièrement, effectivement, comme vous le dites, collaborateur. C'est une forme d'engagement mutuel qu'on a à avoir constitué une coopérative, parce que certes, je suis le gérant, effectivement j'ai en charge la gérance et donc la direction de l'entreprise, mais je ne peux bien le faire que si effectivement j'embarque les autres et quelque part ils me donnent cette confiance. Alors vous me direz, toute entreprise, c'est le propre de toute entreprise. À ceci près, c'est que quand on prend des décisions, on sait qu'on les prend certes pour l'entreprise, mais aussi et surtout pour les coopérateurs qui sont aussi ses salariés associés. Donc ça nous engage encore à plus, notamment nous en termes de gouvernance et de gestion, mais ensemble à plus peut-être de prudence. Et ça, c'est aussi une caractéristique essentielle des SCOP, c'est qu'on a un taux de survie supérieur à la normale, et c'est peut-être justement toute cette confiance et cette bienveillance mutuelle qu'on a et pour l'entreprise et pour les salariés eux-mêmes, que ça nous force à des décisions peut-être mûries.
Prudence et responsabilité, Muriel.
Oui, bien sûr, parce que on a dans une SCOP la responsabilité de l'ensemble des personnes qui travaillent pour cette coopérative, et donc ces personnes qui sont des coopérateurs ont investi au capital, donc c'est pas neutre, ils ont mis de l'argent personnel, de l'épargne dans cette entreprise, et puis c'est aussi leur travail, donc leur revenu, et donc on a tous le souci de faire en sorte que de pas mettre en péril cet équilibre qui est important.
Et les salariés aujourd'hui, hein, de manière générale, ont envie d'un autre modèle. Ils ont envie d'être impliqués. C'est peut-être vous, Rachid, qui allez me répondre.
Alors, nous, moi, j'ai un exemple très concret à vous donner. Hein. C'est la dernière personne qui a été associée chez Co-Savoir. C'est Eva, une jeunette, pour dire les choses simplement, qui est... Qui découvre tout ce que c'est que d'être associé à une entreprise. À 27 ans, moi, je ne savais pas ce que c'était déjà que de gérer une entreprise. Mais elle est déjà associée à une entreprise. Et on a vu chez elle, effectivement, quelque part, un changement de posture. Hein. Je ne dirais pas que son engagement était moindre avant, avant d'être associée. Elle était engagée comme une salariée. Maintenant, elle a conscience qu'en fait, plus que d'avoir un job, elle a un projet avec nous. Ouais. Donc, en fait, on ne lui demande pas un surinvestissement par rapport à sa position de salarié, on lui demande juste une conscience de cet état de fait, d'une contribution collective à la construction d'un projet d'avenir pour nous, quoi. Ce n'est plus simplement notre job, c'est aussi notre projet partagé.
D'accord, c'est ça, et c'est travailler tous ensemble, dans le même sens.
C'est ça.
Dans quel secteur trouve-t-on le plus de SCOP et de SIC, Muriel ?
Alors, historiquement, le secteur du bâtiment est un secteur qui est plus développé que les autres. Aujourd'hui, c'est à peu près 35%. Il y a une quinzaine d'années, on était à 45%. Donc, la proportion se tasse un peu, mais ça reste quand même le secteur important. Et puis ensuite, aujourd'hui, ce qui se développe beaucoup, évidemment, et comme dans toute l'économie, c'est le secteur du service.
Le service, c'est-à-dire hein.
Alors,
ce que vous faites, Rachid, c'est ça ?
Oui, nous, on a des services aux entreprises, mais c'est encore même peut-être plus large. Je pense que c'est les services à la collectivité, c'est les services...
Oui, les bureaux d'études, enfin, tout ce qui est...
Enfin, le tertiaire.
Tout le tertiaire, oui, est en train de se développer énormément.
Se développer en SCOP.
De toute façon, en SCOP, on a alors, beaucoup de bâtiments, mais sinon... Tous les secteurs d'activité sont représentés. C'est-à-dire qu'on a, pour parler sur les entreprises qu'on peut connaître sur l'agglomération, aussi bien l'Orchestre de Chambre de Toulouse...
qui est une SCOP, oui,
qui est une SCOP, que des Biocop, des cabinets d'architectes, le Théâtre du Grand Rond récemment...
Éthicable,
alors qui n'est pas à Toulouse, mais bien sûr qui est très présent. Bon, bref, un peu toutes les activités peuvent se faire en SCOP.
Alors, quel est votre rôle, vous, au sein de l'Union régionale ? Et là, vous allez pouvoir me répondre tous les deux, puisque Rachid, vous avez été accompagné. Et vous, Muriel, que faites-vous ?
Alors, aujourd'hui, moi, je dirige l'Union régionale des SCOP, donc je suis un peu moins dans le quotidien. Mais le rôle de l'Union régionale, en général, c'est d'une part d'accompagner les porteurs de projets qui veulent se créer sous forme de coopérative, à la fois des porteurs de projets qui sont des créateurs ex nihilo, c'est-à-dire on a un projet et on veut le créer sous forme de coopérative, aussi bien les transmissions, puisqu'on a aujourd'hui un certain nombre d'entreprises qui sont saine, dont le dirigeant souhaite partir à la retraite ou simplement passer à autre chose et qui choisissent de transmettre à leurs salariés. Et ensuite, de façon minoritaire, mais qui est pour nous reste un élément important, la reprise d'entreprise en difficulté. Alors c'est important, pourquoi ? Parce que ce sont des sujets qui sont délicats, pas toujours possible, mais pour nous, c'est une grande fierté quand on arrive à reprendre une entreprise qui était destinée à la fermeture.
Oui, tout à fait. Rachid, vous avez été accompagné. De quelle façon ? Comment s'est passé, j'allais dire, le déclic, le jour où vous avez voulu créer votre entreprise ?
Alors, nous, on est le cas d'école de ce qu'a décrit Muriel, c'est-à-dire qu'en fait, on a été accompagné très en amont, puisque quand on avait pour projet de créer notre structure, on s'est interrogé sur le statut.
Ouais,
donc,
ouais.
Très concrètement, on a été accompagné très en amont pour bien comprendre si le statut nous correspondait. Hein. L'URSCOP ne fait pas de prosélytisme, il explique de manière assez factuelle ce en quoi consiste ce modèle de coopération. Et donc, ils nous ont aidés à décrypter les différents formats juridiques et voir dans quelle mesure est-ce que c'était pertinent pour nous de nous y lancer. Donc ça, c'est la première valeur ajoutée. La seconde valeur que nous, on trouve dans ce réseau du URSCOP, outre le fait que déjà, c'est un réseau d'entreprises et en cela, il représente des entreprises, donc il a vocation à nous représenter dans pas mal d'instances. Mais surtout, ce qu'on a apprécié, nous, c'est que c'était un accompagnement dans le temps. Alors, quand je dis un accompagnement dans le temps, c'est qu'en fait, toutes les interrogations qu'on a, on peut les leur soumettre.
Mm-hmm.
Voilà, ils ne font pas le tri de ceci et de cela. C'est à
nous. Il n'y a pas de mauvaise question, c'est ça.
Et il n'y a pas de mauvaise question. On en a posé un paquet et ils ont répondu à toutes. Et concrètement, on nous accompagne, par exemple, sur des aspects de formation. Il y a eu du conseil sur la partie financière, particulièrement d'ailleurs Muriel qui a été notre bonne fée à nous sur tous ces aspects financiers, qui ne sont pas une mince affaire, comme vous le savez, quand on démarre. Et puis, ils nous accompagnent régulièrement, par exemple, pour trouver d'autres compétences. Donc, il y a une vraie logique de réseau. Et dans ce réseau-là, on a l'avantage d'être orienté vers des gens qui, quelque part, sans faire de consanguinité, mais qui, quelque part, prônent aussi un petit peu les mêmes valeurs que les nôtres sur ce modèle économique et sur cet impact social qu'on recherche. Donc, voilà, ils sont un peu à la fois passerelles pour être en contact, nous, avec notre écosystème, et puis conseil ou carrément, ils nous aident dans l'acquisition de prestations ou toute autre demande qu'on peut avoir au jour le jour.
C'est un vrai souhait pour vous, Rachid, de créer en Scop ? Ça correspondait vraiment à vos valeurs ?
Alors, nous, clairement, c'est pour ça que je vous disais, ils nous ont aidés à bien déchiffrer, décrypter ce modèle-là. Nous, on était clairement sur de la coopération. Alors, on employait ça sans savoir ce que ça pouvait donner de manière factuelle ensuite dans la gestion d'une entreprise. Mais c'était important pour nous. Le premier point, la première motivation, c'était de pouvoir avoir une forme de démocratie et de gouvernance qui va dans le sens de la coopération. Alors certains diraient une forme d'égalitarisme, je crois pas que ça soit ce qui nous ait animés. C'est plutôt une forme tout simplement d'égalité entre toutes les personnes qui contribuaient à la naissance de ce projet.
De l'entreprise. Vous restez avec nous tous les deux, Muriel Descours, Rachid, pardon, à tout de suite.
Le goût d'entreprendre, Doris Pradal.
Et seconde partie de cette émission, accompagnée de Muriel Descoux de l'URSCOP Occitanie et de Rachid Zamani, fondateur de Co-Savoir. Bonjour Jean-Marie Fehrenbach.
Bonjour Doris.
Vous êtes un de nos référents éthiques pour le goût d'entreprendre. Première question, Jean-Marie, à nos invités.
Alors, quand on considère votre domaine, on se dit, pour les clients de vos services ou de vos fournitures ou pour les fournisseurs, on est dans le monde de l'entreprise tout à fait classique. Je veux dire, il n'y a pas de particularité. Il me semble que ce qui fait votre grande différence, votre particularité très forte, c'est essentiellement la façon dont vous fonctionnez et aussi la façon dont s'intègrent chez vous les personnels. Est-ce qu'on peut creuser un petit peu cet aspect-là ? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de travailler dans une SCOP ? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'y rester ? Est-ce que vous pouvez dire un petit peu plus ?
Alors, il me semble que... d'une part, quand on n'est pas à la création et qu'on postule pour travailler dans une SCOP, très souvent, on ne sait pas que l'entreprise est une coopérative. Et donc, c'est une première découverte au moment souvent de l'entretien d'embauche pour le salarié, qu'il vient de postuler dans une entreprise dans laquelle on lui dit qu'à terme, il aura la possibilité de devenir associé. Et donc, ça va être un travail important dans la coopérative d'accueillir ce nouveau salarié, de lui...
De pédagogie.
De faire de la pédagogie, de lui donner envie de devenir associé. Et ensuite, de lui faire comprendre que ça va s'accompagner d'un certain nombre de droits et de devoirs. Et qu'est-ce qui fait que beaucoup sont séduits par cette proposition? C'est que ce qu'on ressent aujourd'hui, c'est que les personnes en général ont envie d'avoir un travail dans lequel ils trouvent un sens, où ils comprennent pourquoi ils font ce qu'ils font, et ils puissent avoir leur mot à dire sur un certain nombre de choses qui les concernent directement.
Est-ce qu'on peut imaginer un monde parfait? On a le droit, hein, bien sûr, hein, Rachid, on est d'accord, on a le droit d'imaginer. Est-ce que si les entreprises pourraient être toutes d'utilité sociale? Est-ce que ce serait réaliste et réalisable? Vaste question, très large.
Alors, réalisable, oui, pourquoi pas.
Ouais. Dans tous les domaines?
Il me semble que si on caractérise l'utilité sociale selon toute une palette de nuances et donc des degrés plus ou moins forts, toute entreprise a vocation à avoir un impact sur notre société. Mm-hmm. Après, il faudrait qualifier dans quelle mesure est-ce que cet impact peut être social. Moi, je pense que bon nombre d'entreprises peuvent avoir un impact social. Je prends par exemple, de manière volontaire un exemple américain, la société Patagonia, qui est un cas d'école aujourd'hui, qui fabrique et vend des vêtements et qui aujourd'hui incite ses propres clients à réparer les vêtements. Donc, sans compter que derrière, donc ils ont un statut qui n'est pas loin d'être un statut d'entreprise à utilité sociale, mais ils ne le sont pas au sens de notre loi française. Néanmoins, vous voyez, alors qu'on est en train de vendre du textile, et dans ce monde du textile qui n'est pas des plus vertueux selon moi, on peut arriver à avoir un impact social. Donc, si eux le font, pourquoi pas dans bon nombre d'autres industries. Donc, est-ce que ensuite c'est souhaitable que tout le monde ait une utilité sociale? Moi, j'ai tendance à dire que toute entreprise doit s'interroger sur son impact.
Au moins s'interroger.
Voilà, s'interroger sur son impact social, au même titre que maintenant, c'est complètement dans la culture de s'interroger sur son impact environnemental.
Tout à fait, Muriel, vous voulez ajouter
Bien
quelque
sûr,
chose?
Bien sûr, je partage. Après, j'ai quelques secteurs d'activité où j'ai un peu plus de mal à l'imaginer. L'armement, par exemple. Mais globalement, je pense que la grande majorité des entreprises, effectivement,
Vous pensez qu'il y a une prise de conscience?
Alors, je ne sais pas si elle existe, mais en tout cas, par le biais de l'environnement, c'est sûr que c'est une façon d'interroger beaucoup de choses sur le fonctionnement de l'entreprise.
Jean-Marie, notre question.
Est-ce que ce mode de fonctionnement très particulier conduit à une résistance, une solidité, une résilience plus forte de l'entreprise? Est-ce que vos entreprises apparaissent plus durables que les autres dans le même domaine? Est-ce que vous pouvez l'expliquer peut-être?
Oui, alors ça pour moi c'est une certitude pour plusieurs raisons. La première raison, c'est le mode de répartition des résultats. La plupart des coopératives aujourd'hui, en moyenne sur les coopératives françaises, 45% du résultat est mis en réserve chaque année. Donc ce qui fait que ces coopératives qui, au départ, quelquefois démarrent avec peu de fonds propres, au bout de quelques années, elles se sont constituées des fonds propres qui leur permettent de résister et de faire face à des périodes qui sont plus difficiles. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est le fait que les salariés sont associés et très attachés à leur outil de travail. Et donc, autant quand tout va bien, tout le monde est là pour se partager en partie des résultats. On est aussi là, quand on est salarié d'une SCOP, pour partager les difficultés et essayer de trouver des solutions pour passer les moments difficiles.
Rachid, qu'est-ce que vous avez retenu de votre expérience de créateur d'entreprise?
Alors,
un moment fort.
Les moments difficiles, justement, comme vous venez de l'évoquer, monsieur, les moments difficiles, c'est clairement ce qui a distingué notre entreprise sur un modèle coopératif d'une entreprise, selon moi, classique. C'est qu'effectivement, quand tout va bien, on a la rétribution sur le partage des revenus. Et quand tout va mal, tous les salariés, tous les associés comprennent qu'il s'agit là du combat de leur emploi et que donc ça pousse à effectivement une forme de résilience. Donc la première chose que je retiens, c'est que ce modèle est résilient. Dans le parcours de créateur que j'ai eu. Ensuite, ce qui me marque au bout de maintenant de 7 ans d'entrepreneuriat, c'est effectivement, on l'a dit tout à l'heure, la variété de ce type de coopérative et les préjugés qu'on peut avoir, enfin les idées reçues qu'on peut avoir de l'extérieur en disant les coopératives, c'est sur la partie ouvrière, c'est sur la partie purement médico-sociale ou des choses comme ça. Et en réalité, en croisant mes homologues, mes confrères, dirigeant de SCOP, je me rends compte qu'il y a pléthore d'activités qui sont assumées par les coopératives et j'en suis encore moi-même surpris.
Jean-Marie, notre question.
Mais là, je suis admiratif parce que finalement, vous nous faites découvrir une potentialité des SCOP qu'on n'a peut-être pas imaginée, je dirais un peu par habitude et par accoutumance, c'est un passé. Parce que finalement, ces SCOP, elles sont nées d'où? Comment? Quelques personnes qui ont eu une idée de génie ou...
Alors, elles sont nées au milieu du 19e siècle, au moment de la révolution industrielle, et ça a été une façon de sortir, pour un certain nombre de personnes, du statut de salarié, qui à l'époque était le statut le pire qui soit, puisque les gens étaient en gros corvéables à merci. Et donc un certain nombre de personnes ont décidé de créer à ce moment-là des associations ouvrières qui étaient la façon de sortir de cette situation-là. Alors ça s'est croisé avec des réflexions de grands penseurs philosophiques et politiques qui ont mis ça un petit peu en musique. Et notre ancien secrétaire général qui avait coutume de dire que les SCOP étaient nés du mariage entre utopie et nécessité. Et je trouve que c'est une bonne façon de résumer les choses, c'est-à-dire qu'on a un rêve et en même temps on a des besoins et on va trouver une solution pour y répondre.
Vous avez des besoins de financement aussi. Quel est l'accueil que vous recevez de la part des banques et des financeurs?
Alors, on a des besoins. Évidemment, les SCOP, comme toutes les entreprises, ont des besoins de financement. La situation est plutôt meilleure aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a une vingtaine d'années. C'est-à-dire que les SCOP sont moins ostracisés qu'elles ne l'étaient. Pour autant, il faut quand même reconnaître que un certain nombre de réseaux bancaires sont plus ouverts à notre forme juridique que d'autres. Et l'accès aux fonds propres reste quand même un petit peu difficile.
Difficile, oui.
Tout simplement parce que les organismes qui délivrent des fonds propres fonctionnent avec un objectif de plus-value, c'est leur mode de fonctionnement. Ouais. Et dans les SCOP, il n'y a pas de plus-value. Donc il faut trouver d'autres solutions pour nous financer.
Quel est le conseil que vous pourriez donner à ceux qui veulent se créer aujourd'hui une entreprise sous ce modèle, Rachid et Muriel?
Alors moi déjà, je leur recommande, vous le comprenez dans mon témoignage, je recommande vivement ce modèle. D'abord parce que, on le sait tous, l'entrepreneur est souvent seul. Ouais. Au départ, et la création en mode SCOP, c'est une forme de réponse à ça. C'est-à-dire que, de fait, on est moins isolé, puisqu'il faut minimum 2 coopérateurs pour lancer une SCOP, et donc ça vous force à être bicéphale dès le départ dans la création et la direction d'une entreprise. Et ça, on réfléchit forcément mieux à plusieurs, hein, ça on le sait. Donc ça, c'est le premier conseil que je donnerai. Le deuxième, c'est qu'il y a quand même un solide réseau, on l'a vu avec l'URSCOP, la CGSCOP, ensuite au niveau national, et une forme de fraternité, de pensée, de tous ces coopérateurs, qui fait que chaque fois qu'il y a un coup dur, on l'a pas évoqué ici, mais certes, bon nombre de SCOP sont venus en renfort de certaines SCOP qui avaient des difficultés. Donc ça paraît comme ça trivial et même un peu bateau de dire que les SCOP sont solidaires entre elles.
Beaucoup
aussi.
De solidarité, voilà. Oui.
Il y a déjà la solidarité entre les salariés et les associés, mais il y a aussi la solidarité entre les SCOP. Donc ce tissu-là, certes, il n'est pas encore à la hauteur et aussi large qu'on le souhaiterait dans l'économie, encore qu'il commence à avoir son impact en termes d'emploi et d'économie. Mais voilà, pour un entrepreneur qui veut se lancer, un, je ne suis pas seul. Deux, c'est un véritable mouvement national dans lequel je vais trouver des compétences, du renfort. Enfin, la logique de réseau, en fait, hein, mais renforcée par ce partage de valeurs en plus.
Muriel ?
Ben moi, je dirais ce qu'il faut surtout, me semble-t-il, quand on a ce type de projet, c'est être sincère avec soi-même. C'est-à-dire que c'est un modèle qui a plein d'avantages, Rachid peut en témoigner. Il a aussi des contraintes. Par exemple, une SCOP, ça ne se revend pas.
Oui.
On ne fait pas de plus-value. Et donc, il s'agit de prendre le temps de la réflexion et de savoir si effectivement ce qui est proposé par le modèle coopératif correspond bien à ses aspirations. Et à partir de là, si on fait le bon choix, je pense qu'effectivement, c'est un choix qui permettra à l'entreprise d'aller loin.
Voilà, tout se met en place pour réussir. On peut vous rejoindre facilement.
Bien sûr.
Vous pouvez nous donner votre adresse, l'adresse de votre site.
Alors...
Non.
Bon,
très bien.
Je ne le sais pas par cœur.
Alors, vous savez qu'on va faire.
Il suffit de taper sur un moteur de recherche, les SCOP Midi-Pyrénées, et on nous trouve tout de suite.
Et vous retrouverez également cette adresse sur notre site internet Radio Présence, sur la page du Goût d'Entreprendre.
Merci.
Merci à vous, merci à tous les deux
d'avoir
répondu à nos questions.
Merci
Jean-Marie Fehrenbach.
Merci.
Et merci également à vous à être toujours plus nombreux à nous écouter.
Retrouvez cette émission sur decideurenregion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.